Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Faire réparer son iPhone va devenir un peu plus simple et peut-être même un peu moins cher. Apple a annoncé cette semaine une nouvelle mesure qui permettra d'utiliser des pièces d'occasion pour les réparations. Alors qu'Apple a pendant longtemps freiné des quatre fers dans ce domaine, est-ce que réparer son iPhone est finalement devenu un jeu d'enfant ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, les IA génératives sont déjà en manque de données, l'appareil censé remplacer les smartphones fait un flop, et les Mac M4 pourraient arriver plus vite qu'on ne le pense. Nous sommes le samedi 12 avril, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Je l'ai dit en intro, nous sommes le 12 avril et toujours pas d'iPad disponible, de nouveaux iPads. On va commencer à perdre patience. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien et toi ?
Ça va pas mal, ouais. Toi aussi, t'es impatient de voir les nouveaux iPads arriver ?
Alors, le patron de Mac Génération ne devrait pas dire cela, mais je suis pas plus impatient que cela, à vrai dire. Non, mais ce qui m'intéresse, ceci dit, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est peut-être finalement le plus important, ce sont les nouveaux accessoires qu'Apple prépare. Parce que a priori, ils vont faire un nouveau Magic Keyboard qui permettra de se rapprocher d'un ordinateur apparemment. Ouais. J'attends de voir. Et on a eu aussi des rumeurs assez intéressantes au niveau du Pencil. Donc tout ça, par contre, ouais, je demande à voir. Après, par contre, bon, ça fait un peu redite. Mais le problème de l'iPad, ça reste le logiciel, le fait qu'il soit, de mon point de vue, artificiellement bridé. On a maintenant une gamme qui s'appelle iPad Pro avec des prix qui sont relativement salés. Alors moi, je ne comprends toujours pas qu'en 2024, il n'y ait pas un vrai système multi-utilisateur. Et je suis persuadé que si on pouvait faire de la virtualisation sur un iPad, cela permettrait de rassurer bon nombre d'utilisateurs et les pousser à migrer justement sur un environnement tout iPad. Mais voilà, il y avait eu cette mode il y a quelques années. Hein. On se souvient, d'ailleurs Nicolas avait fait des expériences et avait écrit une série sur le sujet. Et c'est un mouvement qui est un peu passé de mode, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est pas le matériel qui est en cause, mais malheureusement, c'est le logiciel.
Voilà, donc on espérait les iPads au départ ce mois-ci, en avril, et puis ça arrivera peut-être, sûrement, début mai, avec des nouveaux iPad Pro et iPad Air.
De toute façon, on va vers un cycle où, à partir de mai jusqu'à fin juin, il y a beaucoup de choses chez Apple qui sont dans les tuyaux, et je pense qu'on va avoir des annonces très fréquentes et très rythmées.
Alors, le premier sujet important de la semaine concerne les réparations. Après avoir restreint fortement les possibilités de réparation pendant longtemps, Apple assouplit sa politique depuis quelques années. La pomme a annoncé cette semaine une nouvelle option. Elle autorisera dans quelques mois ses clients ainsi que les réparateurs indépendants à utiliser les pièces d'origine d'occasion. Le changement débutera à l'automne avec les iPhone 15 et peut-être les futurs iPhone 16. Alors ça veut dire qu'il sera possible par exemple d'interchanger des écrans d'iPhone 15 entre eux, ce qui n'était pas officiellement prévu jusque-là, et ça désactivait certaines fonctions. Est-ce que réparer son iPhone est finalement devenu un jeu d'enfant ?
C'est jamais simple de réparer un iPhone, ça reste quand même un appareil très compliqué à ouvrir. Dans cette affaire, moi je suis assez partagé entre la politique des petits pas d'Apple qui avance relativement lentement sur le sujet, mais en même temps, c'est assez impressionnant finalement ce qu'elle cherche à faire d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'elle cherche à offrir une meilleure réparabilité de ses appareils, sans sacrifier la sécurité, et par exemple en empêchant apparemment le trafic de pièces volées. Donc c'est-à-dire que quand l'iPhone recevra un nouvel élément, le système cherchera à savoir, si, imaginons que c'est une puce, si elle est bien légitime, et ensuite elle le calibrera. Donc ça demande un petit peu de travail, et ça demande surtout du travail qui est fait en amont, avant la conception des produits. D'ailleurs, John Ternus, le vice-président de l'ingénierie matérielle d'Apple, expliquait, ils ont pris en compte cette problématique lors de la conception des iPhone 15. Et j'imagine qu'ils iront encore plus loin avec les iPhone 16, 17, 18 et compagnie. Donc c'est une mise en place qui effectivement est assez lente, faut le reconnaître, mais la façon dont Apple traite le sujet, c'est quand même assez impressionnant. Elle bâcle pas le truc, elle fait pas les choses à moitié. Voilà, comme d'habitude, elle cherche à faire les choses avec un certain degré d'excellence. Et bon, et c'est peut-être pas plus mal.
Parce que comme tu l'as dit, la seconde nouveauté, c'est que le verrouillage d'activation, donc cette fonctionnalité qui permet de verrouiller votre iPhone quand il a été perdu ou volé, c'est souvent des vols, les pièces qui sont dans votre iPhone ne pourront pas être utilisées dans un autre iPhone, ce qui a l'air quand même assez fort techniquement comme mesure.
Tout à fait, et on peut dire qu'il y aura un avant et un après iPhone 15 en matière d'appareils reconditionnés. C'est-à-dire que là, maintenant, alors quand on passe par d'autres circuits que ceux d'Apple, quand on achète un iPhone 11, 12, 13, par exemple, chez Black Market, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Là, maintenant qu'il y a ce système-là, on devrait pouvoir acheter plus en confiance.
On va maintenant parler des IA génératives. Alors, c'est toujours épatant de voir ChatGPT ou DALL-E générer un texte ou une image à partir d'une simple commande textuelle. Mais pour leur faire créer ces nouveaux contenus, il a fallu entraîner ces modèles avec des quantités astronomiques de données. Et ça commence à coincer dans ce domaine. Dans une enquête, le New York Times raconte que vers la fin 2021, OpenAI s'est retrouvé confronté à un problème d'approvisionnement en données textuelles. Alors, le créateur de ChatGPT a fabriqué un nouvel outil qui s'appelle Whisper, qui est capable de transcrire les vidéos YouTube et n'importe quelle autre vidéo. Et donc, l'entreprise a fait ainsi grossir elle-même le corpus de texte à sa disposition. Donc, c'est plutôt astucieux, mais ça pose évidemment des questions légales et éthiques. On sait qu'Apple travaille également sur des modèles de génération de texte d'image. Quelles données elle exploite pour les entraîner, Christophe ?
Alors, tout d'abord, je les entraîne à s'entraîner sur nos contenus moyennant un petit chèque, on est ouvert à tout.
Oui, le Monde a passé un partenariat avec OpenAI pour faire entraîner ces données sur leur texte, ouais.
Effectivement, mais c'est vrai que ces histoires de contenu, ça pose une question, ne serait-ce que, est-ce que des langues vont être plus ou moins désavantagées que d'autres ? Enfin, tout en n'oubliant pas que ces intelligences génératives sont parfaitement polyglottes. Mais d'ailleurs, on le voit déjà avec Siri, qui est quand même bien meilleur en anglais que dans d'autres langues. Et voilà, et on peut se poser la question de savoir si une intelligence générative sera aussi forte, par exemple, en néerlandais qu'en anglais. Parce que bon, le néerlandais reste une langue parlée par quelques dizaines de millions de personnes, donc il y a forcément moins de contenu sur Internet. C'est une problématique qui sera en tout cas intéressante. Voilà. Alors, pour en revenir à Apple, on sait qu'elle cherche à avoir des accords avec des groupes de médias. En fin d'année dernière, on apprenait qu'elle discutait. Alors, il y avait notamment Condé Nast, donc qui édite notamment Vogue et The New Yorker, NBC News et IAC. Donc là, il y a encore beaucoup de revues en langue anglaise. Pour les images, on sait qu'Apple a passé un contrat avec Shutterstock pour utiliser sa banque d'images. Et de nombreuses autres sociétés ont fait d'ailleurs la même chose. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que Apple semble, enfin, quand on voit les travaux d'Apple, elle a l'air de beaucoup travailler sur les images. Alors on verra ce que ça donne dans iOS 18, mais c'est peut-être là, ça va peut-être être là le point d'attaque d'Apple. Bon, on verra ça d'ici. Hein. Maintenant, deux petits mois.
Ouais.
Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui est positif, c'est qu'Apple cherche plutôt à faire bien les choses et donc à contacter les éditeurs avant de passer à l'acte. D'ailleurs, tout laisse à penser qu'Apple va chercher à arriver à ses fins avec des modèles réduits et plutôt qualitatifs. Parce que là, quand on voit par exemple OpenAI qui se dit « Tiens, on va scanner YouTube ». C'est vrai pour le web aussi, hein, mais voilà, il y a à boire et à manger. Hein, donc, bon. Donc, chez Apple, pour l'instant, on a l'air d'être parti sur des marches plutôt quali. Voilà. Alors, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est les réactions des éditeurs qui sont partagées. D'une certaine manière, ils voient une nouvelle source de revenus potentielle. Donc, ça, c'est très intéressant pour eux. Et de l'autre côté, ils se disent, mais ils vont faire quoi mes données? Comment ils vont les exploiter?
Et ouais, c'est le paradoxe, ouais.
Ouais, voilà. Et je pense que c'est que le début de l'histoire. Et en Europe, il y a ce concept de droit voisin qui avance d'ailleurs de façon très lente. Donc c'est simple. Il y a eu toute une comment dire, toute une polémique pendant des années à se dire non mais attendez, Google affiche une partie de mes pages sur son moteur de recherche, donc pour moi c'est potentiellement une perte de revenus, alors que Google, lui, il gagne de l'argent sur mon dos. Donc il y a eu cette histoire de droit de revenus, sur cette histoire de droit voisin, voilà, qui se met en place, mais qui se met en place une nouvelle fois de manière très très lente. Et finalement, bah, je sais pas si tu utilises Copilot, mais Copilot, c'est exactement la même chose. Je lui pose une question, il me répond, il me donne une réponse, et à la fin, quelque part, il me donne des sources pour aller plus loin. Alors, est-ce que c'est pas une perte de trafic pour moi? Donc, est-ce que finalement, il va pas y avoir un, est-ce que l'Union européenne va pas se pencher sur le sujet? Et que finalement, bah, à chaque fois qu'il y a une requête qui sera faite sur, sur Copilot, les sources finiront-elles pas par recevoir automatiquement un petit subsidu? À voir. Non.
C'est toute une mécanique qui est en train de se mettre en place, oui, que ce soit technique ou juridique, c'est vraiment les débuts de quelque chose de nouveau. Ouais. On va continuer dans l'intelligence artificielle avec l'AI PIN ou l'AI PIN. C'est difficile à prononcer en français. Hein. Il s'agit de cette broche électronique qui a été créée par des anciens d'Apple et qui est censée remplacer les smartphones. Alors, c'est une sorte de super Siri à porter sur soi qui peut envoyer des messages, analyser ce qu'il voit grâce à sa caméra ou encore répondre à des questions complexes. Et tout ça, c'est sans écran puisque le principe est de dicter les commandes à l'assistant qui est connecté au web. Alors, l'appareil est maintenant en vente $700 et il demande en plus un abonnement mensuel à $24. Donc, il est disponible aux États-Unis et plusieurs sites américains ont publié leurs tests cette semaine. Et les verdicts sont catastrophiques. Tous les testeurs déconseillent d'acheter ce produit. Qu'est-ce qui lui est reproché, Christophe ?
À vrai dire, c'est plus un concept qu'un véritable produit. Et peut-être que c'est une volonté du fabricant de sortir ce produit concept pour faire parler de lui et peut-être pour obtenir des financements supplémentaires. On a entendu que l'équipe travaillait sur des produits sur du hardware qui était déjà beaucoup plus ambitieux. Donc c'est peut-être une première étape en disant regardez, on arrive à faire quelque chose. Après, pour en revenir à l'AI PIN. Bon, bah, c'est assez simple, hein. C'est très lent. Des fois, il faut attendre 10 à 15 secondes pour avoir une réponse à une requête. Bah, on passe toujours par le réseau mobile, donc ceci explique déjà cela en partie. Bah, c'est cher, hein, comme tu le dis, $700 plus un abonnement mensuel à $24 qui ne remplace pas un smartphone. Voilà, et en plus, ce n'est pas toujours fiable. Après, quand je dis que c'est un concept, moi, quand je vois ce produit, je me dis, mais pourquoi ces gens sont partis de chez Apple ? Cette technologie, moi, je rêve de l'avoir dans un combo Apple Watch plus AirPods. Ce serait parfait, quoi.
Ouais.
Il y aurait un petit écran qui manque malgré tout à l'AI PIN et ça rendrait la solution d'Apple tellement plus intelligente et tellement plus pratique. Donc voilà, c'est assez dommage. Mais dans l'état, moi, je crois pas que l'IA ait besoin d'un terminal à part entière. À mon avis, elle doit être intégrée au plus profond de nos smartphones, montres et autres. Mais c'est sans doute pas simple à faire, et mettre un assistant par-dessus comme Microsoft l'a fait, c'est assez simple. Mettre des doses d'IA au cœur de l'OS, c'est sans doute plus compliqué. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas temps peut-être pour les systèmes d'exploitation d'arriver à un reboot et de repenser ces logiciels systèmes de fond en comble, comme on l'a fait à l'époque pour Mac OS X par exemple, en mettant vraiment une couche d'intelligence artificielle au plus bas du système d'exploitation. Après, Johnny Ive et Sam Altman, ils semblent a priori décidés à me faire mentir, hein, parce que eux penchent sur un véritable produit dédié à l'IA. Alors, on sait très peu de choses dessus, si ce n'est qu'ils veulent se donner les moyens de réussir. Ils cherchent quand même à lever pas loin $1 milliard.
Mais est-ce que ça va pas jeter un coup de froid, là, quand même, ces tests très négatifs sur l'AI PIN, sur les appareils dédiés à l'IA?
Peut-être, mais en même temps, quand tu t'appelles Johnny Ive et Sam Altman, je pense que voilà, s'il y a deux personnes qui vont se dire « Ah, peut-être qu'ils ont une bonne idée », et puis peut-être que eux justement, vont faire peut-être un produit peut-être qui est déjà existant, enfin, j'ai n'importe quoi, mais peut-être que ça sera un smartphone, mais avec un logiciel qui a été entièrement repensé dès le début pour l'intelligence artificielle. C'est peut-être ça la clé. Il y a quand même un dernier point qui est assez troublant, c'est qu'on dit... à tort ou à raison qu'Apple est à la traîne sur ces questions d'intelligence artificielle, mais on trouve quand même beaucoup d'anciens d'Apple qui planchent sur ces problématiques. Alors, est-ce que, voilà, est-ce que, voilà, c'est finalement assez curieux de voir Johnny Ive dans un tel projet. Alors, est-ce qu'Apple n'a pas raté finalement un coche? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'employés qui, à un moment donné, ont cherché à pousser ce genre de technologie et qu'au plus haut, que dans les hautes sphères d'Apple, on a été peut-être un peu trop sur la défensive? J'en sais
Bah,
rien, mais c'est étonnant.
à ce sujet, d'ailleurs, il y a eu cette semaine la rumeur de Kevin Lynch qui viendrait essayer de chapeauter l'équipe IA pour faire avancer les choses. Ça rejoint un peu ça. On termine le tour de l'actu avec une rumeur sur les Mac équipés d'une future puce M4. Et oui, parce que les Mac ne sont pas encore tous passés au M3, qu'on parle déjà du M4. D'après Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, Apple prépare une puce M4 déclinée en trois versions, donc la M4 standard, M4 Pro et M4 Ultra. Alors, il n'est pas question de M4 Max pour le moment, mais ça changera peut-être d'ici là. Avec cette nouvelle génération, Apple mettrait l'accent sur, je vous laisse deviner, eh ben, c'est l'intelligence artificielle. Les puces M4 pourraient être particulièrement douées dans ce domaine, et donc les premiers Mac M4 pourraient arriver assez rapidement. Quel serait le calendrier, Christophe?
Alors, je tiens à le dire, et je comprends pas trop Mark Gurman sur ce coup-là, parce que oui, que le M4 arrive, enfin, c'est comme si on disait, alors, l'iPhone, on est à la 17 actuellement, c'est ça?
Ouais, un 17 Pro.
Ouais, donc voilà, donc on aura un A18 Pro au mois de septembre, hein, je prends aucun risque en disant ça. Donc voilà, on a toujours eu un cycle, on va dire, alors ça dépend des machines, mais de renouvellement de 12 à 18 mois. Donc, oui, voilà, c'est pas étonnant quoi. Alors, j'imagine qu'on aura les premiers Mac équipés d'une puce M4 à la fin de l'année.
Mais là, ce serait même moins de 12 mois, puisque tu vois, les MacBook Air M3 sont sortis là il y a quelques semaines. On parle déjà d'un renouvellement à la fin de l'année, ça ferait même pas 12 mois.
Ouais, mais enfin, Apple a aussi changé l'ordre de ses machines. Avec les M1 et les M2, elle avait commencé à attaquer l'entrée de gamme, et puis elle produisait après des puces plus puissantes et s'attaquait haut de gamme. Là, elle avait semblé vouloir faire l'inverse, effectivement, avec le M3. Mais voilà, le planning, en tout cas, n'a rien d'intrigant. L'année dernière, à la même époque, on parlait déjà des puces M3 qu'on attendait avec impatience sur nos Mac parce qu'on nous promettait monts et merveilles. Et quelque part, un petit peu à la surprise générale, au mois de juin, on a vu débarquer notamment le Mac Studio avec une puce M3 qu'on n'attendait pas du tout.
M2.
M2, mais ça je savais qu'on allait faire l'erreur, c'est oui, pardon, M2, effectivement. Voilà, mais c'est pour ça. Mais la question est de savoir, et c'est pour ça que je dis M3, parce que j'y pensais déjà, la question est de savoir, est-ce qu'on aura un Mac Studio M3, un Mac Pro M3, ou est-ce qu'Apple va peut-être va passer son tour, enfin le M3 va passer son tour, et on aura peut-être une puce M4 surpuissante à la fin de l'année.
C'est un peu la question. C'est ce qui s'était passé pour l'iMac, d'ailleurs, qui n'avait pas eu de M2, qui était passé directement du M1 au M3. Ouais.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que, enfin, plus que jamais, Apple est le maître des horloges. Elle ne dépend plus d'Intel à ce niveau-là. Donc, comme elle l'a fait d'ailleurs souvent avec les iPads, voilà, si elle a envie de passer directement au M4 pour telle ou telle machine, elle peut le faire. Et d'ailleurs, enfin, je suis plutôt surpris. Personnellement, je m'attendais au passage des puces Apple Silicon à ce que les machines qui se vendent bien, très très bien, c'est-à-dire grosso modo le MacBook Air et le MacBook Pro, soient sur des renouvellements, on va dire, annuels, alors peut-être pas 12 mois, mais on va dire 12 à 16 mois, ce qui est le cas, et que pour les machines de bureau, on ait le droit plutôt, on soit plutôt sur des bases de 18 à 24 mois. C'est-à-dire que voilà, les portables ont le droit à chaque fois à une nouvelle déclinaison de système sur puce, mais qu'Apple, pour des machines qui ne se vendent pas forcément dans de grandes quantités, saute de temps en temps une génération. Est-ce qu'on aura donc un Mac Studio avec une puce M3? J'en sais rien, on verra. Mais ça, on risque d'être quand même, je pense, assez rapidement fixé, parce que voilà, l'année dernière, le Mac Studio était arrivé au mois de juin. S'il n'arrive pas avant, on va dire, le cœur de l'été, c'est qu'il passera sans doute directement en M4.
C'est possible. Eh bien, écoute, merci Christophe pour ce retour sur l'actu. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon, ok à tous, et puis n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming pour encourager Sortie de Veille. Salut à tous!